J'emmenais ma mère, Mélanie, faire des courses, une fois de plus. Je la réprime en lui prenant le volant. Je l'empêche de fumer quand je conduis. Mais elle est contente quand même.
Oh zut, j'ai oublié mon chéquier, dit Mélanie qui fouille dans sa poche arrière de pantalon en descendant de la voiture.
Elle y a plongé sa main à vide pour sortir son paquet de cigarettes. Je paierai, maman. Mélanie disparaît dans les rayons du supermarché. Je la retrouve plus tard. Elle est assise par terre, au milieu des feuilles de choux abandonnées, des trognons, des branches brunes de céleri. Elle mange une grappe de raisin.
Je maraude, dit-elle sans lever la tête. Tu as du feu?
Ah, très drôle, dis-je. Une fois de plus, tu m'offres le mauvais rôle. Une fois de plus, pour toi, je fais le gendarme, la bourgeoise, l'empêcheuse de provoquer en rond. Je prends Mélanie sous les aisselles, je la soulève de terre, ses pieds gigotent. Mais je ne me laisse pas attendrir. Je crie, tu te fiches de moi?
Pas du tout, ma chérie. Ce raisin avait l'air exquis. Ce raisin avait l'air exquis. Et chose surprenante, il l'est. Goûte ce grain.
Merci, je n'ai pas faim.
Ben, quel mal vois-tu à manger sur place? Tu es du côté des patrons maintenant? Une femme révolutionnaire comme toi? Tu sais ce qu'ils font aux petits producteurs de raisins? Tu sais ce qu'ils se mettent dans les poches? Les patrons des Carrefour, des Mammouth, les gérants de G20?
Oh, je ne sais quoi répondre. Sinon que cette appellation de G20 me fait rire. Chaque fois que j'entends un dirigeant du monde dire je me rends au G20, je vois les queues de poireaux dépasser de son cabas. J'interromps ma rêverie, je repose ma mère à terre. Si je parlais, je dirais c'est de la triche, maman. Le directeur de la supérette, il t'a reconnu. Tu sais parfaitement qu'il ne va pas t'arrêter. Tu sais parfaitement qu'il n'y aura ni procès, ni prison. Il est simplement gêné. Et j'ouvre la bouche. J'ose parler, je lui dis. C'est de la triche, maman. Tu peux manger tout le raisin du magasin. Il ne peut absolument rien t'arriver.
Ah, tant pis pour lui. Prenons quelques légumes.
Elle épluche avec soin un chou-fleur pour qu'il pèse moins lourd sur la balance et coûte par conséquent moins cher.
Tu manges les feuilles de chou-fleur, toi? Alors, pourquoi les payer? Tiens, je prends une rave. Rien à jeter dans une rave. Une syllabe intéressante pour un légume qui mérite mieux que sa réputation de rutabaga. J'adore les raves. Quand je dis rave, je pense ravissante, ravageuse. La rave est une pin-up. Et j'aime aussi l'aile de raie. J'ai une passion pour la raie. Tu crois qu'ils ont des ailes de raie en ce moment?
Nous arrivons à la caisse.
Mon Dieu, j'ai la tête qui tourne. Pardon, madame, je me sens mal. C'est certainement mon diabète ou bien mon cœur. Vous nous laisseriez passer? Oh, pardon, faites attention où vous mettez vos tongs. J'ai laissé tomber mon dentier.
Elle se penche en grinçant. Elle ramasse l'objet hideux. Je grimace. Les quelques personnes de la file ont pitié de cette vieille femme minuscule aux dentiers mal fixés, mal fagotés, avec ses gros doigts de pied bariolés qui tanguent sur sa canne, au bras d'une fille exaspérée. On ne laisse pas mourir une personne à la caisse d'un supermarché. Mélanie est si bonne comédienne. Elle jubile. Elle en trépasserait presque pour la beauté du geste. Passez donc. Nous payons vite le trognon de chou-fleur, les poireaux raccourcis de leurs feuilles, la rave blanchâtre, les bières mort subite, le jambon sous cellophane, les Kleenex mentholés. Dans la voiture, aux banquettes vérolées de trous de cigarettes, entre deux bouts de capote qui jaillissent des déchirures, Mélanie sort de ses poches ses trophées. Elle étale entre ses genoux, comme en un giron, une flasque de vodka, des bonbons anglais, une petite boîte de Capres et deux canettes de bière de la cuvée des trolls. Je t'adore, maman, dis-je, dans un accès de malhonnêteté hystérique. Avec toi, on survivra toujours.
La survie, tout est là.
La survie. Et si c'était la clé de toute cette histoire?
Le pêcheur est l'homme d'affaires. Un riche homme d'affaires était en vacances en Inde. Un matin, sur la grève, il aperçut un pêcheur qui rentrait. « Holà ! » lui cria-t-il. « La pêche a été bonne ?»«
Oui, c'est une bonne pêche. »«
Il est encore tôt. Je suppose que tu y retournes. »«
Y retourner ? Mais pourquoi faire ?»«
Mais parce qu'ainsi, tu en auras plus, » répondit l'homme d'affaires, à qui cela semblait une évidence.
« Mais pourquoi faire ? Je n'en ai pas besoin. »«
Ce que tu as en plus, tu les vendras. »
« Mais pourquoi faire ? » ?»«
Tu auras plus d'argent. » »«
Mais pourquoi faire ? » ?»«
Tu pourras changer ta vieille barque contre un joli petit bateau. » »«
Et pourquoi faire ? » ?»«
Eh bien, avec ton petit bateau, tu pourras avoir plus de poissons. » »«
Mais pourquoi faire ? » ?»«
Eh bien, tu pourras prendre des ouvriers. » »«
Mais pourquoi faire ? » ?»«
Ils pêcheront pour toi. »
Mais pourquoi faire ?
Tu deviendras riche.
Mais pourquoi faire ?
Tu pourras ainsi te reposer.
Eh bien, c'est justement ce que je vais faire et tout de suite.
Les trois vérités. Il y avait une fois un paysan très pauvre, si pauvre qu'il n'achetait jamais de viande. C'est pourquoi il allait à la chasse et posait des collets. Un jour, en faisant la tournée de ses pièges, il trouva un rossignol. Il s'apprêtait à l'étouffer dans ses doigts quand le petit oiseau se mit à lui parler. « Homme, ne me tue pas. Je suis si petit que tu feras de moi à peine la moitié d'une bouchée. Cela ne t'engraissera pas. Alors, si tu me laisses la vie sauve, je te confierai trois vérités qui te feront le plus heureux des hommes. »« C'est sûr, » répliqua l'homme. « Tu es drôlement petit. » Tu te promets comme ça des vérités me rendront heureux ? C'est juré, dit le rossignol. L'homme hésitait quelque peu, puis finalement lâcha le petit oiseau. Celui-ci se percha sur une branche basse et lança. Voici ma première vérité. N'envie pas ce que tu ne peux pas avoir.
Tu appelles ça une vérité ? Mais c'est évident, grogna le paysan. Furieux, il voulut attraper le rossignol, mais celui-ci monta un peu plus loin sur la branche et dit « Écoute, ma deuxième vérité, ne regrette pas ce que tu n'as jamais possédé. » « De mieux en mieux, » cria l'homme. « C'est quoi ces sornettes ? Comment pourrais-je regretter ce que je n'ai pas ? Tu te moques de moi ! Reviens ici !»«
Non, » dit le rossignol en se perchant un peu plus haut, « écoute plutôt ma troisième vérité. Ne crois pas tout ce que l'on te dit. » Surtout si c'est invraisemblable.
Bah, évidemment, s'exclama le paysan. Et tu veux que de telles vérités me rendent heureux ? Approche un peu.
Mais homme, tu es vraiment bête, déclara le rossignol en allant se percher sur la plus haute branche de l'arbre. Tu m'as laissé échapper alors que j'ai un trésor dans mon jabot, un diamant plus gros que ton poing. Si tu possédais ce diamant, tu pourrais acheter toutes les terres du canton et avoir un château à la place de ta chaumière. À cette évocation, l'homme gémit, pleura, se lamenta, jusqu'à pousser des cris. Il implora « Rossignol, mon ami, reviens sur ma main, je t'en prie. » « Mon pauvre homme, » dit l'oiseau du haut du pin où il était perché, « non seulement tu es sot, mais ta tête est un vrai panier percé. » Les trois conseils que je t'ai donnés ont fui comme l'eau. Tu es en train d'envier ce que tu ne peux posséder, de regretter ce que tu n'as jamais eu. Et surtout, réfléchis un peu. Tu gobes tout ce qu'on te dit. Comment veux-tu qu'un diamant aussi gros que ton poing se trouve dans mon corps minuscule ? Tu avais bien besoin d'entendre mes trois vérités. Salut l'homme. L'homme retourna chez lui. On dit que cela lui fit beaucoup réfléchir. Avait-il changé ? Nul ne le sait.